nous, on a un nouveau cadran. Les nouveaux cadrans qui ajustent l'heure tout seul. Puis Esther a avancé l'heure sur son cadran qui avance l'heure tout seul. Fait que ça sonnait à 5 heures du matin. Puis là, on cherchait, c'est quel cadran qui n'est pas bien ajusté? Oh, la nuit était courte. On va dire un mot de prière, puis on va commencer, je pense. Hein? On a moins de joie ce matin. Merci. OK, alors on va se courber ensemble dans un mot de prière. Madeleine. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps qu'on peut passer dans ta parole. Père, je vais te demander ce matin d'éveiller notre intelligence, nos corps, afin qu'on puisse être disponible pour ta parole, Père. C'est une doctrine extrêmement importante qu'on aborde ce matin. Bien la comprendre, Seigneur, change beaucoup de choses dans notre marche chrétienne, dans nos combats, dans nos luttes, dans notre appréciation aussi de ce que tu as fait pour nous à la croix. Alors, je vais te demander, Père, une grâce spéciale pour moi-même. Aide-moi à être vif d'esprit, disponible. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Je te prie, Père, d'aider chacun aussi à être bien participant, à être là et à saisir ces choses, Seigneur, qui sont salutaires pour nos âmes. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Je devais terminer, je pense, une page de l'autre leçon, puis j'ai oublié mes leçons chez moi. Je suis vraiment désolé. Bien, j'ai celle de cette semaine. Mais hier, j'ai regardé ça, puis j'ai dit, je pense que j'étais correct. Puis là, ce matin, je me suis dit, il me semble qu'il restait une page à voir ensemble. Alors, je verrai si je reviens dessus la semaine prochaine, d'accord? Alors, ce matin, on regarde ensemble. C'était sur les anges, démons, tout ça. Oui? Bon, je peux jeter un coup d'œil. Merci. OK, oui, c'était quand même c'est quand même une partie importante, là. V'là deux semaines. C'est pas la semaine dernière, v'là deux semaines. Vous êtes vraiment éparpillés pour être une dizaine de personnes, je vous avoue. V'là deux semaines, on a vu ensemble les anges, le diable et les démons, d'accord? Et puis, ce qui nous restait, c'était à la page 8, si vous avez vos notes. À la page 8, les démons aujourd'hui, puis comment le chrétien lutte contre le diable et les démons. Fait que c'était quand même des questions pratiques importantes, là. Alors, je vous encourage à aller prendre le temps de lire les notes si vous ne les avez pas avec vous, puis si vous ne retenez pas beaucoup de ce qu'on voit ensemble ce matin. Qui avait déjà lu là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà adressé ces sujets-là? Je veux savoir jusqu'à quel point c'est comme nouveau pour vous. Tout le combat avec les démons, puis qui a déjà lu? Comment est-ce qu'on fait le combat spirituel? Non? OK? Dans le temps de Richard Roule, c'est ça. Et puis, la prochaine doctrine qu'on va voir ensemble, la doctrine du péché. Qui a déjà fait soit un survol de doctrine ou quelque chose comme ça, puis vous avez déjà étudié la doctrine du péché? Juste lever la main. OK? OK, parce que moi, je me prépare de semaine en semaine, puis je vous avoue, c'est tellement commun pour moi, là, tout ça. Là. Ça fait comme 20 ans là, que je baigne là-dedans, puis j'étudie. Puis je prépare ça, puis je me dis, boy, c'est léger mon affaire. Mais je réfléchissais, puis je faisais juste me poser la question, justement, combien d'entre vous avaient fait des cours de doctrine, des survols de doctrine, tout ça? Personne n'a fait de survol de doctrine ici, c'est ça? Personne? Oui? J'entends? Il y a belle lurette. OK. OK, OK. Oui. Ça fait des années. Bien, on les a faites. OK, OK, c'est bon. Oui, mais des fois, ça peut être par lecture aussi, là, ou des choses comme ça. OK. J'aimerais ça vous encourager. Je sais que c'est un cours du dimanche matin, puis un cours du dimanche matin, c'est quelque chose, tu rampes jusque-là. Quand c'est terminé, tu t'en vas chez vous, puis tu oublies. En gros, c'est ça. Moi, j'aimerais ça... Non, merci. J'aimerais ça vous encourager à lire les notes. D'accord? Lisez les notes. Il y a beaucoup trop de matière qu'on voit à l'intérieur de deux sessions comme ça. Ça va jusqu'en juin. Prenez le temps de lire les notes. Si vous n'avez pas lu là-dessus jusqu'à présent, vous êtes probablement, peut-être, pas très, très curieux de ça. Et même si je vous offrais de vous procurer la théologie systématique de Grudem, possiblement que vous l'achèteriez pas, vous ne le liriez pas, d'accord? Alors, je vous encourage à saisir ça, là. Puis comme Karine dit, bien, ça ne revient pas tous les ans, malheureusement. Alors, là, je suis dans ma leçon qu'on a vue il y a deux semaines. Vous trouvez ça sur le site web. Il me restait juste une page à faire, c'est la page 8. Les démons aujourd'hui, avant d'entrer dans la section, dans la prochaine doctrine, soit sur le péché. Nous ne devrions aucunement douter de la réalité de l'existence et de l'activité des démons aujourd'hui. Il est certain que notre vision profondément matérialiste et naturaliste nous amène à douter de leur existence et de leur activité. Pourtant, comme nous voyons que les tactiques et les astuces du diable ont été diverses à travers l'histoire biblique, nous pouvons conclure que ces derniers ont le génie de s'adapter à notre incrédulité. Je vais juste vous lire la longue citation de Grudem, puis après ça, je vais commenter un peu comment le chrétien est appelé à combattre dans ce domaine-là. Si l'Écriture nous présente le monde tel qu'il est vraiment, nous devons prendre au sérieux sa description d'une activité démoniaque intense dans la société humaine. Le fait que nous n'arrivions pas à percevoir cette activité avec nos cinq sens montre simplement que notre aptitude à comprendre le monde est déficiente, et non que les démons n'existent pas. En fait, il n'y a aucune raison de penser qu'il y a moins d'activités démoniaques aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque du Nouveau Testament. Nous sommes dans la même période à l'intérieur du plan général de Dieu pour l'humanité, l'âge de l'Église ou l'âge de la Nouvelle Alliance. Une grande partie de notre société occidentale sécularisée n'est pas disposée à admettre l'existence des démons, sauf peut-être dans les sociétés dites primitives, et relègue toute évocation de l'activité démoniaque dans la catégorie des superstitions. Mais la réticence de la société moderne à reconnaître la présence d'une activité démoniaque aujourd'hui est d'un point de vue biblique simplement due à l'aveuglement des gens en ce qui concerne la vraie nature de la réalité. Et certaines personnes qui aident des gens qui viennent à la foi sont confrontées, même dans notre société, à des manifestations, des choses comme ça. Dernièrement, un ami à moi, un pasteur, a dû intervenir avec un monsieur qui... Une histoire farfelue, là, vous allez me dire, là, mais c'est l'histoire de ce gars-là qui vivait avec une dame qui pratiquait de la magie blanche. Et puis, elle était sa coloc. Et puis, ils ont eu une chicane et la dame l'a maudit. Ça fait 8 ans environ de ça. Et depuis ce temps-là, le monsieur a des problèmes de santé énormes. Il y a des spasmes. Il a consulté tous les médecins, tous les psychologues. Ils ont démissionné. Ils ont abandonné son cas. Ils ne sont pas capables de trouver c'est quoi la cause de tout ça. Puis là, après ça, pour essayer de régler son problème, il est allé voir des médiums, il est allé voir d'autres personnes qui pratiquent la magie blanche. Depuis ce temps-là, ça a empiré. Et finalement, quelqu'un lui a parlé d'aller rencontrer peut-être un pasteur évangélique pour pouvoir prendre du temps avec lui. Et lorsque mon ami a essayé de faire les interventions avec lui pour pouvoir essayer d'adresser ça dans sa vie, ce qui est ressorti, c'est un mépris profond pour Jésus-Christ. Fait que si vous lisez les évangiles, puis vous voyez comment est-ce que les démons s'en prennent à ceux qui n'ont pas vraiment la foi en Jésus-Christ, bien évidemment, mon ami n'a pas pu faire le travail qu'il aurait voulu faire avec lui à ce moment-là. C'est juste une anecdote, d'accord? C'est juste un fait divers pour vous, mais c'est pour dire que c'est quand même une réalité. On est moins confronté à ça. Les gens ne croient pas à cela, alors je pense que le diable s'adapte un petit peu dans ses stratégies, mais c'est quand même une réalité. Moi-même, pour avoir travaillé en psychiatrie, il y a des situations où tu te poses des fois des questions. Tu sais, il y a des cas de psychiatrie, tu ne te poses pas de questions, c'est une maladie mentale. Il y a d'autres cas, tu as des questionnements. Puis la majorité des chrétiens avec qui j'ai parlé, qui ont travaillé en psychiatrie, avaient les mêmes questionnements. Parce qu'il y a des situations où il y a une agressivité envers Dieu, envers Christ, des choses comme ça qui sortent, qui sont assez particulières. Fait que c'est juste pour dire, même si nous, on n'est pas constamment confrontés à ça, ça demeure une réalité tout aussi réelle que l'existence de Dieu. Comment le chrétien lutte-t-il contre le diable et les démons? Nous sommes clairement engagés dans une guerre spirituelle qui ne cessera que lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire. Entre-temps, l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Donc, on est censé combattre. On est engagé vraiment dans ce combat-là. Comment est-ce qu'on est appelé à livrer cette bataille-là? Premièrement, en se confiant uniquement dans l'œuvre de Jésus-Christ comme source de son salut, de peur de se confier en un faux évangile. D'accord? On l'a dit, lorsque Paul dit « même si un ange vous présentait un autre évangile », ça peut avoir de l'air rhétorique comme phrase, ça peut avoir de l'air d'une figure de style, comme s'il est en train de donner une exagération. Mais je veux dire, j'ai donné l'exemple avec les Mormons, l'ange Moroni est apparu à Joseph Smith, puis il a donné une nouvelle révélation, un évangile qui attaque la divinité de Christ, attaque le salut par grâce. Donc, c'est pas juste théorique, cette affaire-là. Donc, premièrement, en se confiant uniquement dans l'œuvre de Jésus-Christ comme source de son salut, de peur de se confier en un faux évangile. Deuxièmement, en se gardant loin du péché, en se repentant et en confessant tout péché, de crainte de donner une possibilité quelconque au diable de venir influencer notre cœur et nos pensées. Pensez à Éphésiens 4, de ne pas donner accès au diable. Hein, si vous mettez en colère, ne donnez pas accès au diable. Et donc, l'idée, c'est vraiment de garder notre communion avec Dieu, garder notre cœur pur. Il y a deux semaines, j'ai évoqué toute la question de lorsque les chrétiens posent la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Le terme possédé ne représente pas ce qui est écrit dans le grec. Ce qui est écrit dans le grec, c'est avoir un démon. Et donc, si je pose la question, est-ce qu'un chrétien peut être influencé par un démon? Oui. C'est clair, juste avec le texte d'Éphésiens que je viens juste de citer là. C'est ça, je vous dis, il n'y a pas vraiment de nuance. Il n'y a pas vraiment de... C'est-à-dire que l'idée qu'un individu va être entièrement possédé par un démon, puis il n'aura plus du tout le contrôle de sa vie, on a quelques cas dans les évangiles où il y a des gens qui semblaient vraiment perdre le contrôle. Puis là, on craint de dire un chrétien pourrait être possédé par un démon. Je ne pense pas qu'il peut l'être possédé, mais il peut être influencé. Puis est-ce qu'on peut donner accès au diable? On peut définitivement être sous son influence. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va contrôler mes actions, mais il semble qu'il peut venir affecter mes pensées, il peut venir affecter mes comportements. Je peux donner un accès pour qu'il ait une influence plus grande dans ma vie par le fait que je vais laisser des péchés être là dans ma vie, tout simplement. Et donc, je vais lui donner un accès. Alors, deuxièmement, en se gardant loin du péché, en se repentant et en confessant tout péché, de crainte de ne donner une possibilité quelconque au diable de venir influencer notre cœur et nos pensées. Et donc, ça, puis attrister l'esprit, je pense qu'il y a une relation aussi, dans le sens que si je laisse des péchés dans ma vie, Dieu me les montre, le Saint-Esprit me les montre, je refuse de me repentir, je décide de... le terme en anglais « indulge myself », je décide de me laisser aller dans ces péchés-là. Certainement que j'attriste l'esprit, je limite le champ d'action qu'il peut avoir dans mon cœur et je donne accès au diable. Fait qu'après ça, mettez ça ensemble comme vous voulez, c'est assez effrayant. Et c'est ce genre de game-là qu'on joue lorsque Dieu nous montre un péché et on refuse de se repentir. On décide de rester là, de rester dans ce péché-là. D'accord? Troisièmement, en méditant la parole de Dieu pour garder notre cœur et nos pensées selon Dieu. Quatrièmement, par la prière et par la foi, en se confiant en Dieu et résistant à tout mensonge que l'ennemi de nos âmes voudrait nous suggérer. Donc, l'idée de lutter avec la parole de Dieu puis dans la prière pour refuser des mensonges, refuser des pensées vaines, refuser de laisser place à l'amertume, refuser d'embarquer dans des convoitises, l'amertume dans mon couple, puis là, oups, tu commences à regarder ailleurs, puis quand est-ce que c'est juste la chair, puis quand est-ce qu'il y a des mensonges du diable, voyez-vous? Cinquièmement, en se joignant à une église qui enseigne et cherche à mettre en pratique toute la parole de Dieu. Paul nous enseigne que le fait d'être retiré de la communion de l'église en revient à livrer celui qui est rebelle au diable. Qu'en est-il de tous ceux qui estiment que l'Église est trop pécheresse pour eux et qui décident de marcher seuls dans leur foi? Paul dit que lorsqu'il met quelqu'un en discipline puis il le prive de la communion avec l'Église, il le livre au diable. C'est énorme là, comme déclaration. Et donc, ce que je comprends de ça, c'est qu'être en communion avec une église locale qui enseigne la parole de Dieu, là où l'Esprit de Dieu est en train de travailler, c'est une espèce de parapluie pour notre foi. D'accord? On est tous pécheurs, on est tous influençables, et décidé que je vais aller tout seul livrer la bataille contre le diable à l'extérieur, sans être sous la protection de la communion avec les saints, la communion avec les frères et sœurs, des relations les uns avec les autres. Lorsque Jean dit de confesser vos péchés les uns aux autres, c'est parce que dans cette communion-là, dans cette relation-là, il y a le regard de l'autre qui a aussi l'Esprit Saint puis qui me dit, il me semble, Yannick, que tu t'égares, là. Il me semble que non, tu t'es emporté, puis ça venait pas de l'esprit, cette œuvre-là, Yannick. Ce que tu as dit là, ça venait pas de Dieu, je pense. Et cette relation-là est précieuse. Enseigner la vérité, corriger constamment notre pensée. Donc, si Paul dit que lorsque tu mets quelqu'un en discipline, puis il y a différentes formes de discipline dans le Nouveau Testament, mais certaines d'entre elles, lorsqu'un individu va être dangereux même pour l'Église, qui tient à enseigner des fausses doctrines, tu peux en venir carrément à l'exclure de la communion des saints. Là. Et Paul le fait dans certains cas. Paul dit qu'il le livre au diable. Ce que je comprends de ça, c'est que cette privation de la protection de la communion avec l'Église, du parapluie qui est l'Église, en revient à livrer quelqu'un au diable. C'est pour ça que je dis, que penser toutes les personnes qui se disent, « L'Église est trop tout croche pour que j'aille dans l'Église. » C'est correct, tu vas être ton seul parapluie. Toi, t'es plus droit que tout le monde, puis tu vas être ta seule protection. C'est pas la théologie de Paul, puis c'est pas celle de Christ. D'accord? Alors, cinquièmement, se joignant à une église qui enseigne et cherche à mettre en pratique toute la parole de Dieu. Un bel exemple de ça, c'est les jeunes qui partent des régions, qui s'en viennent étudier à Montréal, puis je l'ai vu à plusieurs reprises, des jeunes qui marchaient bien avec le Seigneur dans leur assemblée, déménagent dans la région ici, puis ils ne sont pas tout à fait pressés d'aller se réintégrer dans une église, se présentent un dimanche matin, peut-être pas accueillis comme ils voudraient, puis tout ça. Puis bon, commencent à être négligents un peu avec tout ça. Et régulièrement, j'ai vu des jeunes qui, après un an et demi, deux ans de vagabondage spirituel, puis avec tout ce que ça entraîne, parce que tu arrives au cégep, puis bon, mais il y a des initiations, il y a des parties de cégep, tout le kit. Wow, là, finalement, ils sont rendus bien, bien loin, puis là, ils commencent à prendre peur. Là, ils décident de joindre à une assemblée. D'accord? Un inconverti, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, observerait ça puis dirait, ben c'est clair, ça te prend du support psychologique pour garder tes valeurs puis tout ça. Non, je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a un combat spirituel qui est là. C'est dans la communion des saints qu'on livre ce combat-là. Pas seul dans notre coin. Enfin, si besoin est, devant toute manifestation démoniaque digne de ce nom, c'est-à-dire telle que nous les trouvons dans la parole de Dieu, le chrétien, après avoir prié le Seigneur, ne devrait pas hésiter à prendre autorité sur tout esprit démoniaque qui se manifeste. Alors, je refuse l'idée qu'il n'y a plus de ça, puis on n'aurait pas à prendre autorité sur une manifestation démoniaque. D'accord? Je n'ai aucun problème avec ça. Là où je vais avoir des difficultés, c'est toute cette espèce de pratique qui veut prendre autorité à tout moment. On voit Christ, on voit les apôtres le faire dans des situations où il y a clairement une manifestation démoniaque qui est là. Pas de problème avec ça. Le reste du combat se livre dans la prière, dans la communion avec l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu, en communion avec les saints, en confessant nos péchés pour ne pas donner d'emprise au diable dans notre vie. Essentiellement, c'est ça le combat spirituel. Maintenant, si j'ai une manifestation claire qui est là, je pense que le chrétien doit être prêt à prendre autorité. Pourquoi je dis de commencer par prier avant? Ben, c'est parce qu'on a des situations dans le Nouveau Testament où des individus ont voulu prendre autorité, puis ils n'étaient peut-être pas prêts à prendre autorité, certains n'étant même pas chrétiens. D'accord? Mais j'irai premièrement dans la prière pour dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêcherait d'intervenir dans cette situation-là? D'accord? Donc, je pense qu'il y a une place pour ça. C'est déjà arrivé dans mon cas. Je pense que c'est plus exceptionnel que certains milieux voudraient le croire. Et ça... Moi, personnellement, je vois un espèce de phénomène psychologique dans ça où on essaie comme de se convaincre qu'on peut l'avoir. Mais en réalité, si j'ai des péchés dans ma vie, puis la bonne réponse à ce combat-là, c'était la repentance, bien, je passe à côté de ce que Christ me demande de faire. Ce que Christ me demande de faire, c'est pas d'essayer de prendre autorité, c'est de me repentir premièrement. D'accord? Alors, espèce de pratique là, qui voudrait comme prendre autorité à tout moment devant des manifestations qui ne ressemblent pas à ce qu'on a dans le Nouveau Testament, ça, j'ai plus de difficultés avec ça. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions juste sur ça, avant une ou deux questions, avant qu'on entre dans l'autre doctrine? Ça va. Si jamais il y avait des éléments pointus que vous auriez été mal à l'aise d'apporter devant tout le monde, merci. Vous pouvez venir me voir. Ça va me faire plaisir de répondre. Alors, on passe à la prochaine leçon. La doctrine du péché. Sans regarder vos notes, puis il y en a peut-être qui l'ont lu d'avance, là, comme je vous encourage à le faire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait me donner une espèce de résumé de ce que c'est le péché? Il n'y a pas de bonne réponse, là. Qu'est-ce que c'est le péché, selon vous? Désobéir à la loi de Dieu, tout simplement. Donc, est-ce que c'est vrai pour tous les hommes? Ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu. Ça demeure la même chose? D'accord. Définition. Le péché est tout manque de conformité morale à la loi de Dieu au niveau de nos actes, de nos attitudes ou de notre nature. Donc, ça veut dire ce que je fais, ce que je dis, ce que j'ai dans mon cœur et ce que je suis comme personne aussi. Et ça, on va parler beaucoup de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait essayer de me résumer c'est quoi la nature pécheresse? C'est quoi avoir, lorsqu'on dit qu'on a une nature pécheresse ou qu'on est pécheur par nature, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste une vieille doctrine catholique? Ou si c'est... OK, nous on a hérité. OK, c'est excellent. Donc on a hérité de la nature, à cause de la chute d'Adam, on a hérité des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'on est péchant par nature? C'est vrai? C'est quoi que ça veut dire, notre vieille nature? Oui, OK, oui. OK, OK. C'est ça. Alors, ça en vient à dire que fondamentalement, dans notre être, on est affecté par le péché, on est infecté. Tout ce qui est en nous, d'une manière ou d'une autre, est touché par le péché. J'avais parlé de la compréhension que saint Thomas d'Aquin avait du péché. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Saint Thomas d'Aquin pensait que notre volonté avait été affectée par le péché, mais pas notre intelligence. Ce qui a amené à le développement de toute une théologie qu'on appelle la théologie naturelle. Lui disait, on est assez intelligent pour trouver le vrai sans que Dieu s'en mêle. Parce que notre intelligence n'a pas été affectée par le péché. C'est notre désir de faire le bien ou le mal qui a été affecté. C'est notre volonté. Et à la réforme, Luther, Calvin, Zwingli, tous ces bonhommes-là, ont clarifié cette question-là. C'est ce que Calvin a appelé la dépravation totale, total depravity. Ça veut dire que tout l'être humain, d'une manière ou d'une autre, a été affecté ou infecté par le péché. D'accord? Dans notre nature, fondamentalement, ce qu'on est, c'est des créatures de Dieu créées à l'image de Dieu même, mais cette image a été affectée entièrement de différentes manières. Ça, c'est notre nature pécheresse. L'être humain pêche contre Dieu non seulement, je suis à la page 3, par des gestes qu'il pose ou par des paroles qu'il prononce, mais aussi par des attitudes de cœur, les pensées qu'il anime. En effet, la loi que Dieu a donnée au peuple dans le livre d'Exode dénonce aussi un certain nombre d'attitudes qui s'opposent à la loi de Dieu. Alors, si vous pensez dans les 10 commandements, « Tu ne convoiteras point », ça parle tout simplement de ce qui se passe en moi, là. D'accord? J'ai pas besoin de bouger de ma place, je peux déjà être en train de pécher. Tout simplement parce que je suis en train de convoiter ce qui est à quelqu'un d'autre. Que ce soit l'épouse de mon frère, que ce soit le bien de quelqu'un d'autre, peu importe, je suis en train de sa situation, sa position au travail, je suis en train de convoiter. J'ai pas dit un mot encore. C'est juste à l'intérieur de moi. Je suis déjà dans le péché. Oui? Alors, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous est un potentiel à ce moment-là pour nous, pour pécher. Paul, si on veut regarder juste dans le Nouveau Testament, Galates 5:20, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Puis là, dans les œuvres de la chair étant cette vieille nature en nous, pas juste notre corps physique, mais plutôt cette vieille nature, dans les œuvres de la chair, il va énumérer des péchés qui sont des actions, puis d'autres qui sont des attitudes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Ce sont toutes des œuvres de la chair. Donc, toute notre nature est atteinte par le péché. D'accord? Et puis, évidemment, de manière plus positive, n'oublions pas que le premier commandement ne parle pas d'action ou de parole autant que d'attitude de cœur, soit aimer Dieu de tout notre cœur. Donc, le premier commandement, c'est déjà juste une question d'attitude fondamentalement, c'est d'aimer Dieu. D'accord? Et simplement manquer à ce commandement-là, c'est déjà être pécheur. Donc, je n'ai pas nécessairement posé d'action. Moi, Dieu, je le respecte, mais disons que il n'est pas trop important dans ma vie. Pécheur. C'est réglé. La définition donnée, je suis au bas de la page 3, donnée ci-dessus, précise que le péché est un manque de conformité à la loi morale de Dieu, non seulement au niveau de nos actions, de nos attitudes, mais aussi de notre nature morale. Notre nature même, l'aspect intérieur de notre personne, peut également être affecté par le péché. Avant d'être racheté par Christ, non seulement nous accomplissions des actes répréhensibles et avions des attitudes pécheresses, mais nous étions aussi pécheurs par nature. C'est pourquoi Paul dit qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et qu'autrefois, nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Écoutez bien la phrase qui suit, là, est importante parce que ça détermine le regard que vous posez sur ceux qui ne sont pas à Christ. Même quand il dort, un incroyant, bien qu'il ne soit pas en train de commettre de mauvaises actions, ni d'entretenir des attitudes coupables, reste un pécheur aux yeux de Dieu, car il a une nature pécheresse qui ne se conforme pas à la loi morale de Dieu. D'accord? Alors, sans la grâce de Christ, tout le monde est pécheur, par nature. Puis l'incroyant, même lorsqu'il serait en train de faire le plus bel acte de bonté, demeure aux yeux de Dieu un pécheur condamnable. D'accord? Parce que par nature, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tous des pécheurs. Ça, une bonne compréhension de ça vient affecter ma compréhension du salut. Ça doit affecter mon regard de ce qui se passe sur la terre. Il y a une catastrophe abominable qui a frappé le Japon. D'accord? Ça doit susciter chez nous de la compassion. Ça ne doit pas susciter chez nous un sentiment où on regarde à Dieu puis on dit « Dieu, c'est pas correct ce que tu fais. » Non, dans quelques années, tous ceux qui ne sont pas à Christ seront condamnés à l'enfer. Entre un tsunami puis l'enfer, le tsunami, c'est un bain de plaisir. Là. Vous comprenez? Fait que si je comprends bien l'état de l'humanité, puis il se passe des catastrophes comme ça, mon cœur devrait pleurer devant la souffrance des hommes. Je devrais être ému de compassion. Je devrais chercher qu'est-ce que je peux faire. Je devrais prier pour ces gens-là. Ils souffrent, c'est terrible. Ça, c'est comment j'ai compassion des pécheurs, des gens comme moi. Maintenant, comment est-ce que moi, je regarde Dieu? Si je détermine que Dieu n'est pas correct puis que Dieu est injuste, il faut comprendre que la justice de Dieu, c'est simplement d'éliminer tout le monde maintenant. Parce que tout le monde est pécheur. Ces gens-là, comme vous et moi. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est vraiment important. C'est mon regard de Dieu qui va être affecté, puis comment je vais intervenir avec ces gens-là. Je peux avoir de la compassion, je dois avoir de la compassion. Je ne dois pas juger Dieu comme étant pas correct. Parce qu'il juge les hommes, parce qu'il intervient, parce qu'il rappelle aux hommes qu'un jour leur vie va cesser et vont devoir se présenter devant Dieu. Parce qu'au-delà de toute la souffrance qu'il y a dans ça, c'est ça des cataclysmes. D'accord? OK. Le haut de la page 4 est important. D'autres définitions de l'essence du péché ont été proposées. La définition la plus courante consiste probablement à dire que l'essence du péché, c'est l'égoïsme. D'accord? On a dit que le péché, c'est manquer à la loi morale de Dieu. Dieu dit, c'est ça que tu dois faire, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est droit, puis chaque fois que je manque à ça, je pêche. C'est ça le péché. C'est tout. On a souvent tendance à essayer de résumer le péché comme de l'égoïsme. Écoutez bien ce qui suit. Cependant, une telle définition n'est pas satisfaisante. Premièrement, parce que l'Écriture elle-même ne définit pas le péché de cette manière. Deuxièmement, la recherche de son propre intérêt est à certains égards positive et approuvée par l'Écriture. Comme quand Jésus nous recommande de nous amasser des trésors dans le ciel et quand nous cherchons à grandir en sainteté et en maturité, ou encore quand nous venons à Dieu par le Christ pour être sauvés. Dieu fait appel de toute évidence à l'intérêt personnel des pécheurs quand il dit « détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël? » Les Écritures nous interpellent souvent sur notre bien. Je dis, moi, je suis venu à Christ parce que c'était la meilleure affaire pour moi. C'était le meilleur deal qui pouvait m'être proposé. Donc, moi, je suis venu à Christ là, dans mon intérêt personnel. J'avais pas le goût d'aller en enfer. J'avais pas le goût de continuer à être malheureux. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est une manifestation, encore une fois, du péché en moi? Comprenez, les Écritures nous invitent. Dieu nous dit, ce que je veux, c'est votre bien. Venez à moi, je veux votre bien, je veux vous faire du bien. Donc, il interpelle notre intérêt. Et si je ne comprends pas que la définition du péché, ce n'est pas ça, bien, je vais avoir tendance à vouloir une attitude où je ne me préoccupe jamais de moi. Mon intérêt n'a aucune importance. La religion, là, c'est quelque chose où tu t'oublies complètement toi-même. Non, c'est pas vrai. Moi, je vous le dis souvent, je vous le dis de temps en temps pour vous narguer. Moi, j'espère être le plus grand au ciel. Fait que je vais être le serviteur de tout le monde ici. Je veux juste vous planter de l'autre bord. Comprenez? C'est mon intérêt personnel. Mais Jésus m'a dit que c'était correct, je pouvais le faire. Fait que moi, je vais être votre serviteur à tous, le plus possible. J'espère vous battre l'autre bord. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que Dieu nous offre, c'est le bonheur. Mais je viens à Dieu par intérêt personnel. Donc, on n'a pas à définir le péché comme toute recherche de ce qui est bon pour moi. L'égocentrisme, c'est un péché. Être centré sur moi. Et c'est ça que l'Évangile nous amène vient transformer en nous. Est-ce que ça, c'est clair? Ou il y a quelqu'un qui aurait besoin de poser une question là-dessus pour clarifier ça? Donc, lorsqu'on annonce l'Évangile aux gens, on est là pour leur parler de la gloire de Dieu. On est là pour leur parler que leur vie n'est pas équilibrée parce que Dieu n'est pas au centre de leur vie. Mais on est là pour leur annoncer le bonheur. On est là pour leur annoncer leur intérêt propre. D'accord? Comme on va le voir tantôt, péché, c'est toujours un acte irrationnel. C'est l'acte le moins raisonnable à faire, tout le temps. Ce qui est raisonnable et ce qui est bon pour moi, c'est pas de péché, c'est de venir à Dieu, c'est dans mon intérêt personnel. Fait que l'égoïsme ou chercher mon intérêt, c'est pas un péché en soi et c'est pas une bonne définition pour le péché. Et il peut même arriver que des gens, en fait, on pourrait trouver plusieurs exemples, il y a des situations où des gens vont pécher alors qu'ils sont en train de poser un acte qui n'est pas égoïste du tout. Si je conseille à quelqu'un, je ne sais pas moi, un jeune couple qui est marié depuis un an, puis il y a de la chicane, puis ça va pas bien, puis tu sais, puis moi, ben, je veux conseiller mon ami, puis je dis, regarde, écoute, là, ça fait juste un an, vous n'avez pas encore d'enfant, laissez-vous donc. Tu sais, ça va être long, ça va être compliqué, puis vous allez juste vous entre-déchirer. Selon les Écritures, c'est clair, je suis en train de pécher. Je suis en train d'encourager mon ami à mépriser quelque chose qui est sacré, une alliance qui a été faite, qui doit s'épanouir à la lumière de l'Évangile. Donc, je suis en train de pécher, mais est-ce que je suis en train de poser un acte égoïste? C'est pas dans mon intérêt à moi là, que je fais ça, là. C'est pour lui. Je suis en train de poser un acte altruiste, puis je suis en train de pécher. Parce que je suis en train de déroger de la loi morale de Dieu. Alors, une bonne définition pour le péché, c'est tout acte, toute pensée, toute attitude qui déroge de la loi morale de Dieu. C'est bon? L'origine du péché. D'où vient le péché, selon vous? Oui, Karine. Que le péché était déjà en eux avant? OK. OK. D'autres réponses? D'où vient le péché? D'où est l'origine? Adam et Ève? Satan. Définitivement Satan. D'accord? Lorsque le péché existait déjà dans le monde, avant qu'Adam et Ève pêchent, puisqu'il y a un tentateur qui vient les tenter. D'accord? Alors, le père du péché, pour autant qu'on peut savoir, c'est Satan. C'est de lui que ça origine. Ce que Dieu avait créé, en créant Adam et Ève, c'était bon, c'est ce qu'il a dit. Il n'y avait donc aucun péché en eux. Mais il y avait une naïveté qui était là, il y avait une disposition à, il y avait une possibilité qui était là, ça c'est clair. Et Dieu les avait créés à son image avec une possibilité aussi de faire un choix. D'accord? Donc le péché origine de Satan, avant que l'homme existe, le péché existait déjà. Le péché n'origine pas en Dieu. Une des grandes difficultés qu'on rencontre en théologie, c'est toute cette question de « oui, mais Dieu savait que ça allait se produire, donc est-ce qu'on pourrait en venir à dire que le péché origine en lui, puisqu'il savait que ça allait se produire? » Puis si tu vas un petit peu plus loin que ça, bien, même pour que la croix, pour que le sacrifice de la croix ait lieu, il fallait qu'il y ait le péché dans le plan de match. Donc, est-ce que ça origine en Dieu? Non. C'est clair que Dieu l'a permis. Mais si Dieu avait conçu le péché, si Dieu avait choisi le péché, il ne serait plus Dieu. Les Écritures sont claires. Ça fait partie des mystères où à un certain moment donné, tu réfléchis sur ces choses-là, puis tu t'arrêtes et tu dis « Ok, Dieu, ta parole dit vrai. Tu dépasses ma compréhension. » Les Écritures disent vrai. Tu es définitivement au-dessus de mes capacités de comprendre. D'accord? Il y a un moment où je dois arrêter dans ces réflexions-là parce que je me lance dans des spéculations qui vont contre les Écritures. Les Écritures sont très, très claires. Si vous allez justement au point B, là. Commençons par affirmer que Dieu n'a pas péché et qu'il n'y a pas de péché en lui. De par sa nature propre, Dieu ne saurait être l'auteur du péché puisqu'il est parfait, parfaitement juste et saint. L'homme a péché, des anges ont péché, mais Dieu n'est pas l'auteur du péché et n'a pas péché lui-même. Alors, juste deux textes, Deutéronome 32, 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Puis dans Job 34, 10, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Dieu est saint, sans quoi il ne serait pas Dieu. Il faut tout redéfinir Dieu si Dieu n'est pas saint et juste. Dieu est la vertu même incarnée. Donc, le péché n'origine pas de lui, mais c'est clair qu'il l'a permis. C'est clair que dans ses plans, cela devait se produire. Ça, c'est très clair. Et c'est là qu'il y a un mystère où, à un certain moment donné, tu dis, tes plans sont merveilleux, mais ils sont aussi mystérieux. D'accord? Le péché était présent dans le... Pardon? Il aurait pu arrêter. La question de Mme Paradis, c'est dans sa toute-puissance, est-ce qu'il n'aurait pas pu empêcher le mal? Oui. Maintenant, si vous vous rappelez, lorsqu'on a vu les qualités de Dieu, les attributs de Dieu, on a vu ensemble que tout ce que Dieu fait est parfait. Fait que, ça va avoir de la fou, là, ce que je vais vous dire, si vous n'avez pas médité sur ça encore, là. Mais ce plan-là, qui impliquait le péché, qui impliquait la croix, qui impliquait la manifestation de la gloire de Dieu à travers la croix, de sa grâce, ça, c'est ce qu'il y avait de plus beau à accomplir. S'il y avait eu quelque chose de plus beau, il l'aurait fait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Fait que nous, on regarde ça, puis dans notre humanité, puis dans notre jugement à nous, de notre perspective à nous, on a la tentation de dire, il y a quand même quelque chose qui a dérapé quelque part. T'sais, il me semble que si j'avais eu ta puissance, tu sais, je sais pas, j'aurais mis comme des stops, tu sais, avant qu'il arrive, le serpent s'en allait vers Ève. Non, juste dévier son sentier, voilà, ailleurs. Tu sais, j'aurais mis des freins, puis on aurait contenu tout ça. Dieu fait tout à perfection. Moi, je vous dirais la manière que je me réconcilie le plus facilement et le plus clairement avec toute cette question-là, c'est lorsque je m'en vais dans l'Apocalypse et que je vois dans l'Apocalypse que la croix, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, c'est au centre de notre adoration pour l'éternité. Et cette œuvre-là qui allait manifester non seulement le Dieu créateur, mais le Dieu gracieux sauveur, cette œuvre-là nécessitait que l'histoire se déroule ainsi. Pour qu'un jour j'adore Dieu en disant « Tu es un Dieu gracieux », il fallait qu'il ait fait grâce. D'accord? Alors, Dieu fait tout à perfection et cette fresque-là est extraordinaire. C'est un petit peu comme lorsque je disais, voilà deux semaines, au début de ma prédication, avez-vous déjà vu un bon film où il n'y a pas de mauvaise nouvelle, où il n'y a pas de drame? D'accord? C'est plate, tu sais, c'est écouté passe-partout, là. Puis encore là, dans passe-partout, il y en a des petits drames. Mais une belle histoire, là, il y a un drame. Dieu est en train de faire une fresque à sa gloire. Pour moi, j'aime la peinture, fait que c'est facile pour moi de le visualiser. Mais Dieu dépasse Michel-Ange, puis tous les peintres qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, puis tous les artistes qu'il y a eu. Et le chef-d'œuvre qu'il est en train de faire implique la croix. Implique le sacrifice de Dieu pour le salut des hommes. Et donc, dans ce tableau-là, il y a des moments de douleur, de souffrance, puis il y a des résolutions, puis il y a des pardons, puis il y a la grâce, puis la réhabilitation de l'homme. D'accord? Donc, est-ce que Dieu aurait pu le faire? Mais si Dieu n'avait pas été Dieu, il aurait pu le faire. Puisque Dieu fait tout à perfection, il a fait ce qui était parfait. Je comprends que quelqu'un qui n'est pas croyant va dire c'est un raisonnement circulaire que tu fais, là, ceux qui philosophent un peu. Là, je le comprends très bien. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la vérité quand même. C'est que c'est comme ça que Dieu voulait que ça se passe. Et je me réconcilie avec cette vérité-là, comme je vous dis, à la croix, personnellement. Et je vois que l'agneau immolé est au centre de l'adoration pour l'éternité. Et donc, il y a un aspect de Dieu qui nous est révélé à travers l'œuvre de Christ qu'on n'aurait jamais connu si Christ n'était pas venu mourir pour des pécheurs comme nous. OK. Juste une observation pratique que Grudem fait au milieu de la page 4. Grudem nous le fait remarquer, ce premier péché est caractéristique de tous les péchés en général. Premièrement, alors, le péché d'Adam et Ève ressemble à tous nos péchés, à chacun d'entre nous, en général, de trois manières. Premièrement, le péché d'Adam et Ève a porté atteinte au fondement même de la connaissance, c'est-à-dire qu'il a donné une réponse différente à la question « qu'est-ce qui est vrai ?» Dieu avait dit « vous allez mourir si vous mangez de ce fruit-là ». Vous ne devez pas faire ça, vous allez mourir. Adam et Ève ont décidé de dire, je pense que ça c'est ta vérité, Dieu, moi j'ai ma vérité à moi, je vais l'essayer mon chemin à moi. Et derrière la majorité de nos péchés, il y a cette idée-là. Dieu dit quelque chose, puis on décide de dire, non, ça c'est faux, moi c'est ça que je crois. D'accord? C'est une caractéristique de la majorité de nos péchés. Deuxièmement, leur péché a porté atteinte au fondement des normes morales. Car il a donné une réponse différente à la question « qu'est-ce qui est bien ?» Dieu avait dit à Adam et Ève qu'il serait bien qu'ils ne mangent pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais les hommes ont choisi de croire le mensonge du serpent en remettant en question ce qui est bien selon Dieu. Alors, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est bien ? La troisième « qui suis-je ?» C'est généralement là dans nos péchés. Fait que, prenons l'exemple de l'avortement. C'est bien, selon ceux qui pratiquent l'avortement, ceux qui défendent ça, c'est bien de faire ça. Et ils ont tout un raisonnement pour justifier non seulement qu'ils peuvent le faire scientifiquement, mais ils donnent un sens moral à cet acte-là. C'est pas la meilleure chose, tu devrais peut-être pas arriver à ça, mais si tu es dans telle situation, c'est la bonne chose à faire. Tu fais le bien quand tu te fais avorter. D'accord? On a donné une autre définition au bien que celui que Dieu donne. Dieu dit non, ça c'est un meurtre. C'est clair, c'est un meurtre. Non, c'est bien. D'accord? Fait que dans le péché d'Adam et Ève, ils remettaient en question ce qui est vrai. Tu vas mourir? Non, je ne mourrai pas. Oui, tu vas mourir. Peut-être pas comme tu penses. Tu n'es pas mort sur place, mais on est tous en train de mourir à cause de ça. Donc, Dieu avait dit vrai. Dans le sens moral, qu'est-ce qui est bien? Eux autres ont dit non, c'est bien qu'on fasse ça. Non, c'est pas bien, puis il va y avoir des conséquences à ça. Et regardez, dans nos péchés, on cherche à se justifier. On veut se dire, non, c'est la bonne chose, je suis en train de faire le bon choix. Alors, il m'est arrivé de conseiller des personnes qui me disaient, je sais, Yannick, que les Écritures me disent que je dois faire ça, mais c'est pas ça que Dieu veut que je fasse dans cette circonstance-là. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Des gens qui m'ont dit, je sais que la Bible me dit que je devrais faire ça, mais c'est pas ça que Dieu veut que je fasse. Dieu veut que je fasse ça. Parce que c'est ça la bonne chose à faire maintenant. D'accord? Je vous dis, là, j'ai des gens qui me disent ça. Ils décident que ce n'est pas ça que Dieu veut. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils veulent se justifier. On veut croire qu'on fait la bonne chose même lorsqu'on déroge à la loi de Dieu. Enfin, troisièmement, au haut de la page 5, le péché a donné une réponse différente à la question « Qui suis-je? » Adam et Ève étaient des créatures de Dieu et comme telles étaient dépendants de Dieu et devaient respecter leur subordination à Dieu. Mais ils ont succombé à la tentation d'être comme Dieu, essayant ainsi de prendre la place de Dieu. Alors Adam et Ève ont voulu aussi dire « Non, non, nous on va être comme Dieu. Moi, je ne suis pas juste une créature de Dieu. Je n'ai pas à être soumis à Dieu. Je peux faire mes propres choix. J'ai le droit de m'affirmer. Je vais être mon propre Dieu dans un sens. Je vais être ma propre autorité. » D'accord? Et souvent, les péchés qu'on commet remettent en question ce que les Écritures disent aussi sur « Qui suis-je? » Tu es une créature de Dieu, tu es censé obéir à Dieu. Non, 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 non. Ça relève de ma vie à moi, c'est mes questions à moi. C'est pas lui qui va décider pour moi. Ah, tu viens de te définir autrement que ce que les Écritures disent. C'est ton identité là, que tu viens de définir autrement. D'accord? Ainsi, à la lumière de ces observations, nous pouvons dire que tout péché est irrationnel. Il était complètement irrationnel de la part de Satan d'espérer supplanter Dieu. Pensez-y deux secondes. Satan avait décidé qu'il allait planter Dieu. Il est rentré dans le ring contre Dieu. Il y en a qui savent c'est quoi, aller dans un ring? C'était un gros morceau, tu sais. Puis Satan, il a dit, je suis capable de le poigner, celle-là. On va y arriver, tu sais. Hello? Réfléchis. C'était irrationnel. C'était fou. C'est de la folie. Il en va de même pour l'homme. Il est irrationnel pour l'homme d'espérer trouver le bonheur. Là, je vous donne des exemples. Il est irrationnel pour l'homme d'espérer trouver le bonheur tout en marchant loin de celui qui a conçu l'homme et le bonheur. Fait que Dieu dit, moi, je t'ai créé. C'est moi qui sais comment tu vas être heureux. Puis l'homme, il dit, j'ai pas besoin de toi pour trouver le bonheur, je vais le trouver là. C'est pas raisonnable. C'est stupide comme raisonnement. C'est insensé. C'est pas rationnel comme raisonnement. D'accord? Le péché est toujours un acte irrationnel. C'est toujours un acte déraisonnable. C'est un acte par lequel on dit, la Bible dit ça, mais ce n'est pas vrai. La Bible dit que ça, c'est bien, puis ça, c'est mal. Mais ce n'est pas vrai, c'est ça qui est bien. La Bible dit que je devrais chercher à glorifier Dieu, lui obéir, même quand ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas vrai, moi, je n'ai pas besoin de lui pour dire qui je suis. C'est toujours irrationnel comme comportement. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça a comme implication pratique? Bien, si je suis en train de lutter avec un péché dans ma vie, je devrais chercher qu'est-ce qu'il y a d'irrationnel aussi dans mon péché. Qu'est-ce qui est déraisonnable à la lumière de la parole de Dieu? Vous luttez avec un péché depuis un bout de temps. L'avez-vous disséqué, ce péché-là? Avez-vous mis ça à table pour l'analyser puis dire en quoi ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là? C'est stupide ce que je fais. D'accord? Parce que c'est sûr que c'est pas raisonnable. Ce n'est pas la bonne chose à faire pour votre propre bonheur. Satan aurait été beaucoup plus heureux s'il n'avait pas décidé d'embarquer dans le ring contre Dieu. C'était pas un bon move, là. Il avait mal fait ses calculs, tu sais, poids, grosseur, rapidité, tout le kit. Non, ça ne balance pas, mon homme. Je pense que je n'embarquerai pas à ta place. Non, il a décidé de la prendre pareil. Ce n'était pas raisonnable. Et il en va de même pour tous nos péchés. D'accord? La doctrine du péché hérité. On va commencer ça. De toute façon, on passait deux semaines sur la doctrine du péché, c'était prévu. Mais c'est ça. Alors, la doctrine du péché hérité. Ça, c'est une question importante. Puis on va voir qu'on a hérité du péché en Adam de deux manières. Nous avons hérité de sa culpabilité. Parce que Adam a été coupable, tous les hommes sont coupables. Par nature, nous sommes coupables devant Dieu. Et nous avons hérité de sa nature, de sa tendance au péché. D'accord? Comment le péché d'Adam nous affecte-t-il? L'Écriture nous enseigne que le péché nous est transmis de deux manières. Comme j'ai dit, la culpabilité héritée, le point 1. Si vous voulez regarder juste vite la page 6 aussi. Alors, à la page 5, c'est la culpabilité héritée. Nous sommes tenus pour coupable à cause du péché d'Adam. Puis le point 2, la corruptibilité héritée. Nous avons une nature pécheresse à cause du péché d'Adam. 1, on est coupable. 2, on est pécheur dans nos actions, dans notre être, dans notre nature. Et ça, on l'a hérité d'Adam. Alors, premièrement, le point 1 à la page 5. La culpabilité héritée. Nous sommes tenus pour coupables à cause du péché d'Adam. Les Saintes Écritures nous enseignent que le péché d'Adam a entraîné la culpabilité de tous les hommes. L'apôtre Paul est certainement celui qui l'exprime le plus clairement. OK, je vais introduire la notion d'imputation. Vous savez, Christ a pris sur lui nos péchés. Et donc, nos péchés lui ont été imputés. Ça a été mis sur son compte. Et le pardon qui lui a été donné, sa justice à lui, la grâce, nous a été imputée à nous. La justice de Christ nous a été imputée à nous. Ça, c'est important de faire le lien entre ça, l'imputation, et le fait qu'on a hérité d'une nature pécheresse d'Adam. D'accord? On va le voir là, tranquillement, c'est quoi la relation entre les deux, mais c'est important. Est-ce que c'est clair, cette idée-là d'imputation? Oui, non? Non? Ça va? OK. OK, alors par exemple, l'argument entier de l'imputation de la justice de Christ est lié au principe de transmission de la culpabilité d'Adam à tous les hommes. Romains 5, 18, 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Adam pêche, tous les hommes sont condamnés. Toute la gang. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Un seul homme accomplit le sacrifice parfait à la croix, et tous ceux qui croient peuvent être déclarés justes. Mais vous suivez? Un seul homme accomplit la justice en allant mourir sans péché à la croix, et la justice nous est offerte à tous par la foi. Par un homme, le péché atteint tous les hommes. Par le sacrifice d'un homme, la justice peut atteindre tous ceux qui vont croire. D'accord? Oui, oui. C'est pour ça que Christ est appelé le deuxième Adam. D'accord? Puis d'autres aspects aussi, là, dans la recréation aussi. Adam est parfait. En Christ, on redevient tout ce qu'on est censé être. L'image de Dieu en nous est reconstruite, tout ça. Donc, il est le premier Adam aussi dans ce sens-là. Au moment où Adam, notre père, a tous péché, Dieu a considéré toute l'humanité comme pécheresse. La même notion est présente à nouveau derrière la déclaration suivante de Paul. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Moi, Christ est mort pour moi avant que je naisse. OK? Je sais pas comment est-ce que Paul fait pour dire que nous étions encore des pécheurs. Moi, je n'étais pas. Mais en Adam, si je devais naître un jour, j'étais déjà pécheur. D'accord? C'était sûr que toute la gang allait être pécheur, puisqu'on a tous hérité de cette condamnation et de sa nature pécheresse. Donc, Paul est en train de dire ici qu'au moment où Christ est mort, tous les hommes, qui sont tous pécheurs, Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Je vais terminer avec la page 5. Ainsi, Paul nous rappelle que Christ est mort pour une humanité existante ou à naître qui était tout entière dans le péché. Bien que nous puissions croire à une injustice de la part de Dieu, nous nous devons d'admettre que ce jugement de Dieu se trouve confirmé dès notre très bas âge avec la manifestation de notre nature pécheresse. Fait que, dans un sens, si j'ai de la difficulté à admettre cette vérité-là, parce que je trouve ça un peu injuste, tu sais, quoi, moi je suis pécheur parce qu'Adam a péché, mais je n'ai pas encore commis un seul péché avant de venir au monde. OK. La réalité, c'est que de toute façon, donne-toi quelques mois, un an et demi, deux ans, puis tu vas voir. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est juste parce que vous n'avez pas eu d'enfant. D'accord? Mais je veux dire, c'est pas long. Tu as des enfants, puis tu vois le cœur rebelle qui se manifeste, c'est très, très rapide. D'accord? Ainsi, nous avons tous commis volontairement de nombreux péchés, et c'est sur cette base essentiellement que nous serons jugés. Donc, dans un sens, on est déjà jugé parce qu'on est pécheur en Adam, mais chaque fois que Dieu nous parle du moment où on va comparaître devant lui, c'est sur la base de nos péchés commis qu'on va être condamné. D'accord? Donc, j'ai hérité de la nature pécheresse, puis quand je vais me retrouver devant Dieu, je ne pourrais pas dire, « Ben Dieu, tu sais, c'est pas moi, c'est parce que... » Non, non, c'est toi, regarde, là, 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 là. Tu en as justifié en masse, tu peux t'en aller en enfer. D'accord? Je reviendrai sur le dernier paragraphe, d'accord? Mais je vais juste vous le lire, puis vous pouvez commencer à réfléchir à ça cette semaine, si c'est nouveau pour vous. Et il nous faut saisir que si nous rejetons le principe qu'Adam soit notre représentant, parce que cela entraîne notre culpabilité à tous, nous nous devons aussi de rejeter que Christ soit notre représentant et que sa justice nous soit imputée à tous. Si tu refuses l'idée qu'à cause d'un homme, toi, t'es pécheur, Adam était ton représentant, t'es emporté, mais tu dois rejeter aussi l'idée qu'un homme, Christ, peut être ton représentant. Tu iras te représenter tout seul devant Dieu. D'accord? Vas-y tout seul, essaye-le pour le fun. Il t'offre un avocat, Jésus-Christ, mais toi, tu ne veux pas Adam comme représentant, tu ne veux pas Christ comme représentant. Tu as refusé l'avocat qu'on te proposait, tu veux prendre ta défense par toi-même. C'est ça l'idée. D'accord? Alors, vous pouvez réfléchir à ça cette semaine. La semaine prochaine, on va terminer la doctrine du péché. Vous n'avez pas toutes les notes, là, je vous les donnais en deux sections. Donc, vous avez deux autres pages. Si vous pouvez prendre le temps de les lire, de relire ces choses-là, si la semaine prochaine, vous avez des questions, je pourrais commencer avec des questions. Je vous dirais que c'est une des doctrines les plus importantes, celle du péché. Merci. Ça va? Peut-être, n'oubliez pas de signer la feuille de présence puis de mettre votre adresse courriel si je ne l'ai pas, parce qu'on va vous ajouter à la liste d'envoi pour que vous receviez les notes de cours.